chères auditrices de la RVLD, je vous salue de cordial shalom. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la fréquence de l'île de Cayenne, les 98.3 MHz, et sur Kourou, sur les 107.4 MHz. Nous n'oublions pas nos amis de Maripasoula sur la 89.4, et puis également les Sinamariens sur la 102.2. Voilà, bien aujourd'hui, je reçois pour la dernière fois, en tous les cas, pour ces quelques jours qui viennent et ces quelques mois, le frère Moshe, pasteur de l'église de Rouen, qui est avec nous en Guyane depuis déjà maintenant une dizaine de jours et qui malheureusement va quitter le département pour rejoindre pour rejoindre sa région. Rouen, bonjour.
Bonjour.
Voilà, eh bien, tu es avec nous encore pour nous annoncer le message de Dieu. Merci au Seigneur.
Gloire à Dieu.
Voilà, nous allons sans tarder prier pour que le cœur des uns et des autres s'ouvre et entendre ce message que Dieu veut nous accorder et nous donner, déposer dans notre cœur cette bonne semence qu'est la parole de Dieu qui apporte la vie.
Père éternel, nous te bénissons de cette opportunité d'écouter ta parole qui ne retourne point en toi sans atteindre ses objectifs en nous. Nous prions que non seulement les auditeurs soient édifiés, sauvés et transformés, que nous-mêmes nous grandissions dans notre foi grâce à ta parole. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.
Alors aujourd'hui, je crois que le thème que le Seigneur a mis sur ton cœur, c'est de parler aux auditeurs et auditrices de ce Jésus que tout le monde a dans la bouche parfois, surtout en fin d'année, mais que beaucoup ne connaissent pas vraiment.
Effectivement.
Alors donc, tu nous parleras d'un ministère particulier qu'il est venu accomplir sur la terre.
Amen. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Voilà. Et puis pour cela, nous allons nous appuyer sur, bien sûr, sur la parole de Dieu, qu'est la Bible. Et je ne cesse de vous dire, hein, à la RVLD aussi, les animateurs qui se succèdent, la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui l'a inspirée. Même si beaucoup disent, ah oui, ce sont des hommes qui l'ont écrit, certes, Dieu utilise l'homme qu'il a créé pour parler. Il a utilisé des prophètes. Et justement, le dernier des prophètes, c'était Jésus-Christ. Et il a laissé cette parole écrite pour que les générations comme la nôtre puissent la voir, la lire et être au courant du plan de Dieu de salut pour l'humanité et pour toi, particulièrement qui nous écoute ce matin. Alors bien sûr, nous avons Aline qui va aussi faire la lecture de la parole. Bonjour Aline.
Bonjour.
On t'entend pas Aline?
Bonjour à tous.
Alors il faudrait parler un peu plus fort Aline, s'il te plaît, dans le micro, pour qu'on puisse bien t'entendre, si en plus tu dois faire la lecture de la parole de Dieu. Vas-y.
Nous allons lire donc dans Luc 19, 1 à 10.
Voilà Aline.
Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé.
Voilà. Excuse-moi Aline, je vais faire la parole parce qu'on ne t'entend pas. Je vais faire cette lecture et peut-être tu vas faire la deuxième. Hein. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Il a dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Voilà. Donc, Seigneur clôture en disant « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est ça l'objectif de sa venue sur la terre. Venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et cet exemple-là que nous avons dans l'histoire de Zachée est là pour résumer ce que l'Évangile. Le Seigneur nous montre par cet exemple qu'on peut être riche, on peut être un homme de pouvoir, on peut être un homme religieux et être quand même perdu. Zachée était riche, il avait beaucoup d'argent, il était un homme de pouvoir, mais en réalité, il était perdu. Et Jésus a eu pitié de lui. Jésus a dit, je suis venu sauver les perdus, parce que les gens se disaient, mais c'est un païen, comment Jésus peut aller auprès d'un tel personnage? Mais Jésus a rappelé à tous ceux qui l'entouraient, à tous ceux qui étaient témoins de la scène, il a dit, mais je suis venu pour cela. Je ne suis pas venu pour faire de la religion. Je ne suis pas venu pour faire un groupe, je ne sais quel, dans quelle logique associative. Mais je suis venu pour sauver les gens qui sont perdus. Et les gens qui le réalisent aussi, parce que Jésus fait une œuvre totale, convaincre les gens qui sont perdus et aussi les sauver. Et j'en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est oublié dans le milieu chrétien d'aujourd'hui. On a oublié que le but principal de l'existence de l'Église sur la terre, c'est jouer ce rôle que Jésus-Christ est venu lui-même jouer. Jésus-Christ est venu donner sa vie, agir, parler, de sorte que celui qui était perdu puisse venir à la vie éternelle. Et l'exemple de Zachée est très important parce qu'il nous montre que ce qui peut faire la force de l'homme sur terre, l'argent, le pouvoir, devant Dieu, ce n'est rien du tout. Lorsqu'on compare ça au salut, ce n'est rien. C'est pour Dieu, c'est une petite parenthèse. Vous savez, il y a une mouche qu'on appelle éphémère. Cette mouche ne fait qu'un jour d'existence. Elle vient au monde, elle vit que pendant un jour. Mais pendant ce jour-là, elle a le temps de s'accoupler et de produire une descendance. Pour cette mouche-là, un jour, c'est beaucoup, parce qu'en un jour, elle fait ce que doit faire une créature, se reproduire. Et pourtant, pour nous, c'est rien du tout. Un jour, c'est quoi? Et c'est la même chose pour Dieu. Pour nous, on trouve que 120 ans, c'est long. 100 ans, 40 ans, 60 ans, c'est long. Mais dans le spectre de l'éternité, c'est rien du tout. C'est pourquoi Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que les gens sont perdus. Qu'ils soient riches, qu'ils soient grands religieux, ils sont perdus parce que la vie véritable, c'est la vie éternelle. Une parenthèse de 120 ans dans l'éternité, c'est rien du tout, c'est vraiment petit. Et le Seigneur veut interpeller son Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez récupérer les perdus, parce que c'est pourquoi moi je suis venu. Et les perdus, il y en a partout. C'est pas parce que quelqu'un a 10 voitures qu'il est sauvé. Il est perdu. Il a besoin de celui seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Et Zachée nous démontre par son attitude, par la suite, que la vie éternelle est une réalité premièrement. Parce que pour certains, c'est un concept philosophique, c'est un rêve. Mais Zachée nous montre que la vie éternelle est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il arrive à se dépouiller de tout ce qu'il avait pour saisir la vie éternelle. Je ne dis pas que lorsque nous nous convertissons, on est obligé de se dépouiller de tout ce qu'on avait. Mais l'exemple de Zachée nous montre quoi ? Que cet homme a saisi quelque chose qu'il a trouvé plus excellent que toutes les richesses de la terre, que toutes les professions de la terre, que toute l'élévation terrestre. Ça peut être une élévation religieuse même, ça peut être une élévation professionnelle, ça peut être une élévation dans le sport. Mais Zachée a tout lâché parce qu'il a pris la moitié de ses biens. Il a rendu aux gens qui il a donné aux pauvres. Mais comme il usait aussi parfois de malversations financières, il se devait de restituer les gens qu'il avait surtaxés en tant que collecteur d'impôts. En quelque sorte, Zachée, après avoir donné la moitié des biens aux pauvres et restitué les gens à qui il devait quelque chose parce qu'il les avait un peu surtaxés, Zachée allait se trouver avec rien du tout. Mais il était heureux. Comment expliquer ça? Il a saisi quelque chose. La vie éternelle, ce n'est pas une question d'après la mort seulement. C'est une réalité qu'on saisit depuis qu'on vit. Zachée nous apprend cela. Et cette réalité est tellement puissante, excellente, que les biens de la terre deviennent insignifiants. Zachée nous montre cela. Donc nous voulons interpeller le chrétien d'aujourd'hui à comprendre que s'il est attaché aux biens de la terre, il devrait aussi se poser la question sur son salut. Le salut est une puissance. L'apôtre Paul dit dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance qu'on reçoit à l'instant où on est sauvé. Ce n'est pas une histoire d'attendre de mourir et puis d'aller au ciel. Non. On reçoit la vie éternelle, et cette vie éternelle est tellement agréable et puissante qu'elle ternit ce qui nous entoure. C'est ce qui fait que Zachée, voyant ses biens ternis, il a préféré s'en débarrasser pour saisir pleinement la vie éternelle. C'est comme quand on est à table et qu'on a trouvé parmi plusieurs plats ou jus qu'on nous propose, on a trouvé celui qui nous plaisait le plus. Ah ben, on va éviter de prendre les autres choses pour réserver le ventre à ce qu'on aime le plus. Donc Zachée s'est débarrassé de toutes ces choses pour réserver sa vie à ce qui était le plus agréable, le plus beau, le plus puissant. C'était la vie que Jésus-Christ lui donnait. Donc arrêtons de penser que Jésus est venu donner des mariages, donner des voitures, des biens aux gens. Non, il est venu donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle est au-dessus de tout ce qu'on peut citer. Maintenant, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il dit, si vous avez la vie éternelle, vous aurez tout le reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et vous aurez le reste. C'est le premier point que nous voulions rappeler. La vie éternelle est une réalité présente. Ce n'est pas une réalité à venir. C'est une puissance réelle. Et Zachée nous en fait la démonstration en se débarrassant de tous ses biens. Donc le salut doit être encore prêché aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens disent, mais oui, mais on ne voit pas trop les gens, la technologie est là, on a tout ce qu'il faut. Non, même si on a tout ce qu'il faut, on est perdu. Les gens sont perdus. Zachée avait tout ce qu'il fallait, mais il était perdu. Et quand il a observé Jésus, il a réalisé. Et aujourd'hui, nous devons, nous les chrétiens, réclamer la puissance de Dieu de sorte que quand les gens nous regardent, ils réalisent que leur bien, c'est rien du tout. Quand ils voient notre joie, ils voient la puissance qui se dégage de nos actes, ils réalisent que ce qu'ils ont n'est rien par rapport à cela. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est les chrétiens qui envient les païens par rapport à tout ce qu'ils ont. Et ils vont faire de l'imitation dans les choses de Dieu pour pouvoir ressembler aux païens, faire la pub, chercher de l'argent, faire tout ce que à peu près les païens font, mais dans un contexte chrétien, pour pouvoir briller comme les païens. Mais c'est rigolo. Zachée a fait le contraire. Zachée a laissé tout ce qui était du monde pour saisir à plein dents la vie éternelle, saisir le feu de Dieu. Et c'est ça que nous devons ramener dans l'Église. Le salut reste l'actualité parce que Jésus est venu pour ça. Quand on néglige ça, on finit dans la religion. On finit dans la religion. C'est pourquoi le Seigneur, en partant, il a dit à ses apôtres, tout pouvoir m'est donné. Nous allons lire ce texte, Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Amen. Amen. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi, je suis là. Jésus, c'est l'instruction qu'il donne à ses apôtres. Il dit, maintenant que moi, je m'en vais, vous, vous allez travailler à ma place. J'étais venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous m'avez vu le faire avec la femme samaritaine. Vous m'avez vu le faire avec Nicodème. Vous m'avez vu le faire avec Zachée. Maintenant, c'est à vous de le faire. Par votre vie, que vous soyez mes témoins. J'ai tout le pouvoir. Et avec mon pouvoir, je vais vous accompagner. Donc, vous allez être mes témoins. Les gens à travers vous vont réaliser qu'ils sont perdus. Et ceux qui voudront de mon salut, je leur donnerai. Mais la distraction s'est installée. Vous savez, dans toute chose, hein, dans le monde même parfois nous enseigne, il y a l'entraînement et puis il y a la réalité. Il y a 7 ans ou 8 ans ou 10 ans d'entraînement pour devenir médecin, de travail, de formation. Et puis il y a un moment où on exerce. Il y a des entraînements pour dans le foot, dans le basket, et puis à un moment, il y a le match. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés aux entraînements. Donc c'est l'entraînement dont les gens se réunissent, ils s'entraînent, et ils disent, le Seigneur ne nous a pas encore envoyés. Qui nous envoie maintenant? Le Seigneur a déjà dit dans Matthieu 28, 18, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est moi qui ai le pouvoir. Mais nous, on dit, mais non, il ne nous a pas encore moins. Mais non, mais lui, il a dit, mais j'ai le pouvoir, je serai avec vous. Et dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et on est là, finalement, dans des débats entre chrétiens, dans les entraînements sans fin. Et pour certains, ils sont dans des entraînements sans fin en attendant de travailler. Et d'autres ont transformé l'entraînement en match. Au fait, le match, c'était d'aller sauver les perdus. Maintenant, le match, ça devient concurrence entre chrétiens. Qui est le meilleur? Qui a le bon poste? Et l'Église tourne en rond. Nous devons replacer le salut des gens au centre des choses. Et aujourd'hui, il y a encore une discipline qui fait succès, c'est l'eschatologie. On n'en disconvient pas. On est à la fin des temps. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. D'accord, nous sommes tous d'accord que nous sommes à la fin des temps. Même les païens, certains le savent, on est à la fin des temps. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des théories, des livres et des livres sur la fin des temps. Il nous demande, puisqu'on est conscient que c'est la fin des temps, récupérons le maximum qu'on peut sauver. Il ne nous dit pas de rester les bras croisés, puisque dans Luc, on nous montre que le jour de l'enlèvement, il y aura des gens qui seraient dans un lit, d'autres seront sur le champ. Donc la vie continuera. Si la vie normale continuera, ben, la vie en Christ continuera aussi. Donc on doit continuer à sauver les âmes. Que l'enlèvement nous trouve au travail et non enfermés dans des couvents en train d'attendre l'enlèvement. Comme quoi tout est mauvais, on s'enferme, on prie et on attend que Jésus nous enlève. Non, l'enlèvement nous surprendra sur le champ de bataille. Nous devons replacer le salut, c'est ça l'objectif de Jésus sur la terre. Nous devons replacer ça au centre. Et pour ceux qui auraient honte du salut, ce n'est pas normal. On doit se poser des questions. Est-ce que vraiment j'ai saisi le salut? On doit se poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu as saisi le salut? Parce que Zachée nous montre que le salut est plus grand que l'argent. Le salut est plus grand que le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. On voit des chrétiens courir après l'argent, courir après le pouvoir, courir après le succès. Zachée était dans tout ça. Il a choisi le salut plutôt que ces choses. Il nous montre clairement que le salut en Jésus est supérieur à tous les biens du monde.
Alors, après cette pause musicale, j'aurais souhaité pour ceux peut-être qui entendent ce mot pour la première fois, qui sont à l'écoute de la RVND, avoir un peu plus de précision sur le contenu. Quand on dit le salut, qu'est-ce qu'on veut dire exactement après, juste après cette pause ? Voilà, nous retrouvons l'émission Main tendue, Dieu te tend la main ce matin parce qu'il te rappelle qu'il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et si effectivement il est venu, c'est que l'homme a besoin d'un libérateur, il a besoin d'un sauveur. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ce que ce mot veut dire quand on parle de salut.
Alors le salut... La compréhension du salut commence par la logique du péché. Il y a le péché dans l'homme. Et la preuve la plus flagrante du péché de l'homme, c'est la mort. L'homme meurt. La mort témoigne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vieillir et mourir, tomber malade et mourir, c'est la preuve qu'il y a un processus de destruction dans l'homme. Donc quiconque est humain doit reconnaître qu'il est pécheur. Qui a un problème. Après, on peut citer d'autres choses. Il y a la haine, les guerres, les maladies, les éruptions volcaniques. Tout ce qui est destruction vient du mal. Et ce mal est dû au fait que l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, a cherché à être son rival. Donc, il a voulu prendre la place de Dieu et gérer lui-même son existence alors qu'il avait été créé. Cette rébellion-là, causée par le diable, a fait que toute l'humanité a été atteinte par le péché, donc l'homme naît avec la puissance du péché en lui. Et cette puissance du péché se manifeste par dans les enfants même de 4 ans, 3 ans, avec de mauvaises réponses, de mauvais comportements, et ça grandit. Et cette puissance du péché se manifeste par les divorces, ça se manifeste par la dépression, la tristesse inexplicable, la mélancolie. Donc l'homme se sent vide. Et même quand il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de moyens, on en voit qui prennent la cocaïne, la drogue, le propofol, alors qu'ils sont millionnaires, parce que le mal les ronge. L'homme est perdu, qui qu'il soit, parce que vous vous imaginez, vous avez 70 ans et vous êtes milliardaire, mais quand est-ce que vous aurez le temps de dépenser vos milliards? Ça vous crée en vous une certaine tristesse, donc malgré vos milliards, votre existence est courte. La mort est le témoignage de la perdition de l'homme. Et Dieu a pitié de nous, puisque non seulement notre existence est pourrie par le péché, c'est que après la mort physique vient le jugement qui amène les gens dans le feu éternel plus tard. Et Dieu ne veut pas de cela. Parce que Dieu a créé l'homme éternel et il ne faut pas croire qu'après la mort, tout s'arrête. Quand on meurt, notre âme continue à vivre. Mais elle va vivre où? Dans un incinérateur qu'on appelle l'enfer, le feu éternel.
Alors, il y a certains, justement, par crainte, comme pour eux, après la mort, il n'y a rien, c'est l'anéantissement. Et je l'ai entendu la semaine dernière, pas plus que ça. Je dis, oui, mais après la mort, il n'y a plus rien. Donc voilà, vivant, mangeant, buvant, faisant ce que nous voulons. Et donc il y a ça. Et puis il y en a qui se font incinérer parce qu'ils se disent, Dieu a dit qu'on doit retourner à la poussière. Et donc ils redeviennent poussière parce qu'il n'y a plus rien après.
Non, c'est faux. Il est écrit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Mais pourquoi le jugement va venir après la mort s'il n'y a plus rien? Donc, si le jugement vient après la mort, ça veut dire qu'il y a une destination, il y a une continuité. Et la Bible est remplie de versets qui montrent qu'il y aura un jugement qui amènera les gens dans les tourments éternels, dans la souffrance éternelle. Et pourquoi les gens diront? Mais tout simplement parce que l'homme est éternel. C'est son corps qui meurt, mais lui, il a été créé éternel. Donc maintenant, l'éternité dans le mal n'est pas supportable dans le monde de Dieu. Donc Dieu a un incinérateur qu'on appelle le feu éternel qui va cantonner les gens dans l'éternité, mais dans ce feu-là, pour empêcher que ce mal-là contamine la création de Dieu. Et donc, c'est un exemple simple. Tous nos détritus, nous les mettons dans les sacs poubelles. Ces sacs poubelles, après, sont collectés par les éboueurs. Ensuite, ça va où? Dans un incinérateur. C'est pourquoi? Parce que plus on les laisse, plus ça pourrit et ça peut pourrir notre environnement. Donc on doit les brûler. La différence maintenant avec l'incinérateur du ciel, c'est que ça brûle des choses éternelles. Donc ça brûle éternellement aussi. Donc ces gens-là seront tout le temps dans l'incinérateur.
Avec un corps?
Avec un corps. Puisqu'ils ressusciteront, nos corps ressusciteront pour le jugement. Le jugement sera de l'être entier.
Un corps éternel alors?
Un corps, oui, mais qui souffre éternellement. Éternellement, il y aura une résurrection pour accéder au jugement, parce qu'on ne va pas juger que l'âme, on va juger le comportement du corps aussi. Tout l'être humain sera jugé, et c'est ce qui fait que les gens qui ne croient pas en Jésus devront brûler éternellement, cantonnés dans l'incinérateur.
Alors, Moshe, il y en a qui disent, mais Dieu est bon. Il y a une dame, quelqu'un qui, la semaine dernière, me dit, mais oui, c'est vrai que les hommes vont... Mais elle me dit, oui, Satan, Dieu va le jeter dans le feu, mais c'est comme la feuille qui brûle dans le feu, après ça sera fini, il sera anéanti pour toujours.
Ah non.
Mais non, c'est pas ce que la Bible dit.
C'est pas la Bible, c'est que la Bible dit, ce sont des créatures éternelles, que ce soit les anges, que ce soit les humains. Ce sont des créatures éternelles, ce ne sont pas des arbres. C'est des créatures qui devront être cantonnées dans un feu éternel, parce que sinon, ils vont polluer l'atmosphère. Donc, en fait, c'est le même processus de nos déchets sur Terre. C'est ça qui va se passer. Sauf que là, on a affaire à des produits éternels.
Donc le feu ne peut pas s'arrêter parce que ces produits-là vivent toujours. Et c'est ça qui a conduit Dieu à envoyer son fils Jésus. Parce qu'il n'a pas voulu ce sort-là, qui en réalité était réservé au diable. Ce n'est pas un sort réservé aux humains. Ça a été réservé au diable et à ses anges, puisque eux aussi sont des créatures éternelles qui ont péché dans l'éternité. En fait, nous, la mort physique est un moyen de Dieu pour nous sauver. Comme eux ne pouvaient pas mourir, ils ne pouvaient pas être sauvés. Donc le mal en eux était éternel. Dieu, par la mort chez nous, permet un recommencement. C'est ça notre grâce, nous les humains.
Le recommencement, c'est grave parce que ce n'est pas un recommencement heureux pour tout le monde.
Malheureusement. Donc par la mort, Dieu permet une résurrection, soit au ciel, soit en enfer. Et Jésus ne veut pas cela pour les humains. C'est pourquoi il a pris le corps d'homme. Il a fait des hommes ses frères. Vous savez, quand tu vas sauver ton frère, tu vas à 100%. Il a pris pour être de la race de l'homme. C'est pourquoi il s'appelait le fils de l'homme, parce qu'il était de la race de l'homme. Il était le défenseur de sa race maintenant. Donc il ne venait pas comme un sauveur extérieur, mais comme un sauveur intérieur. C'est ça Jésus, c'est ça le salut. Donc Dieu a pitié du sort de l'homme qui se manifeste déjà dans son existence physique sur terre. Il a pitié de ça, il envoie son fils pour prendre ce qui amène l'homme à la destruction et ensuite dans le feu éternel, prendre le péché sur lui. De sorte que quiconque croit en Jésus puisse recevoir une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est écrit dans Jean 3, 5. Donc le Seigneur dit, on peut lire dans Jean à partir du chapitre 3, à partir du verset 5. Jean chapitre 3 à partir du verset 5.
Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Voilà. Donc, Dieu, voyant la détresse humaine, voyant la perdition humaine, il envoie Jésus. De sorte que Jésus prend le péché de l'homme. Et en prenant le péché de l'homme, Jésus est crucifié, condamné à la place de l'homme. Et en échange, Jésus communique sa vie. Donc c'est une substitution, double substitution. Jésus prend la place de l'homme. Il est condamné à sa place, donc il meurt à la place de l'homme. Et en échange, lui, il donne à l'homme sa vie, puisque lui ne pouvait pas mourir étant sans péché. C'est ça qui est merveilleux. C'est pourquoi quelqu'un qui loupe Jésus est fini. C'est pourquoi les chrétiens doivent arrêter de faire de la religion. Ils doivent centrer leur foi sur Jésus, parce que c'est Jésus qui est notre salut, ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton groupe. Nous devons tous centrer sur Jésus. Effectivement, si nous tous nous centrons sur Jésus, nous ferons un groupe. Voilà, le groupe, c'est le corps du Christ. Mais il faut d'abord, la priorité, c'est d'abord Jésus. Chacun se centre sur Jésus. Et à partir de là, on forme un groupe. Et maintenant, Jésus dit à ce groupe-là, maintenant, allez faire pareil que moi. Donc, tout commence par la compréhension de Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi il est venu? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu donner sa vie pour les perdus. Et quiconque nous entend et qui se croit fort parce qu'il a l'argent, parce qu'il a du succès, parce qu'il a je ne sais quoi, et qui pense sa sortie par ses propres efforts, il se trompe. Seul Jésus-Christ sauve. Tu es en train de te diriger vers la mort. La réponse que Jésus a donnée là, il l'a donnée à un grand religieux. C'était un docteur, le plus grand docteur d'Israël, parce que Jésus l'a appelé le docteur d'Israël. Nicodème, qui était le docteur de la loi, un des plus grands religieux de l'époque, Jésus lui a dit, mais ce n'est pas ta religion, ce n'est pas tes connaissances qui vont te sauver, c'est moi qui sauve. Et c'est moi qui donne la nouvelle naissance. Mais ça commence par reconnaître ses torts, reconnaître son péché, reconnaître qu'on est en train de mourir et qu'il n'y a pas de solution. La solution, c'est laisser Jésus-Christ nous sauver. Donc nous devons revenir au centre de cela, au centre de ce message. Et quand Jésus-Christ crée quelqu'un de nouveau, Jésus prend place dans la personne et il conduit la personne. On a vu comment Zachée a fait les choses. Quand il a cru en Jésus, automatiquement, il est devenu une nouvelle personne. Il s'est débarrassé des biens volés, il a restitué, et la moitié de ses biens, il a donné aux pauvres. Il a compris que la vie éternelle était plus que cela. Oh, combien aujourd'hui la vie éternelle est dépréciée. C'est devenu un concept philosophique, une logique de salle d'attente. On est dans une salle d'attente et le jour viendra, on aura l'éternité. Non, l'éternité, nous l'avons maintenant. Nous avons la vie. Celui qui croit en moi a la vie, dit Jésus-Christ. C'est maintenant. Et cette vie devient un moteur qui t'amène à faire les choses comme Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous devons tout le temps rappeler aux chrétiens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas normal. On doit se poser des questions sur la conversion. On doit se poser des questions sur le salut. Aujourd'hui, les païens ne cherchent même plus à venir à Christ parce qu'ils voient bien que les chrétiens les imitent. Les chrétiens veulent avoir de l'argent commun. Les chrétiens, musiciens, commencent à chanter comme les musiciens du monde. Les chrétiens, pasteurs, commencent à travailler comme les chefs d'entreprise du monde. Prêcher comme les orateurs du monde. Utiliser les termes du monde parce qu'ils veulent gagner le maximum. Mais la Bible dit clairement, large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène au ciel. Et peu de gens le trouvent. Nous n'avons pas à chercher à ressembler au monde. Nous devons présenter Jésus. Celui qui veut de Jésus sera sauvé. Et celui qui ne veut pas ira dans le feu éternel. Mais au moins Jésus lui a été présenté. Nous ne devons pas chercher à gagner du monde, à avoir du succès, à le nombre. Non, nous devons présenter l'évangile. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il le dit clairement. Il est venu pour cela. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu faire des grandes salles. Jésus-Christ n'avait pas même d'endroit où dormir. Je ne suis pas venu faire des grands groupes. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, je reviens maintenant à Matthieu 18 à 20. Mais Jésus dit maintenant, comme on a lu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il nous donne maintenant ce rôle d'aller montrer aux humains qu'ils sont perdus et que Jésus est leur solution. C'est ça le rôle de l'Église. C'est vrai, pour jouer ce rôle, il y a une partie d'entraînement. C'est pourquoi Éphésiens 4, 11 nous dit que Dieu a établi des docteurs, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes pour amener le peuple à la statue, le peuple de Dieu à la statue, chaque chrétien à la stature parfaite de Christ. C'est ça l'entraînement. C'est que quelqu'un reçoit le Seigneur. Oui, il faut qu'il reçoive des enseignements. Il faut qu'il soit entraîné pour aller vers la stature, à la stature parfaite de Christ. Mais l'entraînement ne doit pas s'arrêter à l'entraînement. Ensuite, il y a la pratique qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Chacun à sa place, chacun dans son rôle. Mais c'est un souci qui doit être porté par chaque chrétien de l'Église. C'est-à-dire chaque chrétien de l'Église doit se dire, ben tiens, si on est sur terre ici, c'est pour Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Comme c'est écrit dans Psaume 2, verset 8, « Demandez-moi les nations, je vous les donnerai en héritage. » Dès l'Ancien Testament, Dieu montre l'objectif de Jésus qui allait venir. C'est sauver toutes les nations, sauver tous les peuples. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de missionnaires. Il n'y a plus d'enfants de Dieu qui disent « Je vais consacrer ma vie à cela. Je vais me donner pour cela. » Non, chacun cherche à s'en sortir dans la vie avec un bon boulot, avec une bonne maison, une belle chose, un bon mariage, ainsi de suite. Et on est là en train de prier, « Seigneur, donne-nous ceci, donne-nous cela. » Mais le Seigneur dit, « Mais moi, je vous ai laissé l'Église, je ne vous ai pas laissé pour tout ça. » Et le Seigneur le dit même dans Apocalypse, dans Luc 21, 34, « Ne vous laissez pas apesantir par les soucis de boire et de manger, hein, par les soucis du monde, ne vous laissez pas apesantir. » Ça rend lourd. Et il nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. » Moi, je me dis, mais puisqu'on m'a donné la clé pour avoir tout, mais pourquoi je ne veux pas utiliser cette clé? Cette clé, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Je cherche la stature parfaite de Christ. J'applique Matthieu 28, 18 à 20, et Dieu s'occupera de me donner le reste. Pourquoi on ne suit pas cette procédure simple? Quand Zachée, moi, j'ai toujours demandé à chaque chrétien de prier afin de réaliser ce que Zachée avait réalisé. Parce que c'est la clé de tout. Quand un homme arrive à se rendre pauvre pour l'évangile, il faut qu'on se pose la question. Mais il a vu quoi cet homme pour en arriver là? Il a réalisé quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. On cherche Dieu pour être riche. On cherche Dieu pour être guéri. On cherche Dieu pour avoir le pouvoir. On cherche Dieu pour avoir le succès. Mais Zachée, lui, s'est privé de tout ça pour saisir à plein dents la vie éternelle. On doit se poser la question. Mais il a vu quoi? Il a saisi quoi, Zachée? Il a saisi quoi? Que moi, je n'ai pas saisi. Parce que j'ai l'impression que je suis étouffé. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Seigneur, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à Zachée. C'est ça qui doit être l'objectif de chaque chrétien. Et l'objectif de groupe chrétien, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas passer son temps dans les entraînements, à chasser des ennemis partout. Par là. Donc aujourd'hui, on est devenu des spécialistes de trouver des ennemis. Seigneur, je suis... Affronte mes ennemis. Mais le Seigneur a tout accompli à la croix. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais la mission principale, c'est aller chercher, sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi on retrouve la distraction. Parce que quand on joue pas, tu ne joues pas le rôle pour lequel on t'a destiné, tu vas tomber dans la distraction. Toutes les distractions qu'on trouve aujourd'hui, c'est dû au fait que l'Église ne joue plus son rôle. Ce qui fait que les gens se battent pour des positions dans les assemblées, ils se battent pour avoir du succès dans la musique. Ils ont oublié leur rôle. Le rôle qui est de sauver les humains, quand tu oublies, c'est l'égarement, la distraction. Vous savez, quand quelqu'un... Imaginez la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Tu es au front. Et est-ce que tu as le temps de regarder à ton maquillage? Est-ce que tu as le temps de regarder? Est-ce que tes chaussures sont de telle marque? Attends, les missiles sont en train de pleuvoir, les balles pleuvent. Est-ce que tu as ce temps-là de dire, ah, ma fiancée, tu n'as pas ce temps-là. Tu es concentré. Et est-ce qu'on a le temps d'haïr son collègue? Pas en pleine guerre, mais c'est lui qui te protège. Est-ce que tu as le temps de le détester? Donc vous vous auto-protégez, vous protégez mutuellement. Tous les problèmes qu'on rencontre dans les églises, les gens qui se détestent, les gens qui se rivalisent. Mais qui rivalise? Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est qu'on n'est tellement pas dans le travail pour lequel on nous a destinés que toutes ces distractions vont germer. Les gens qui cherchent à avoir le meilleur poste dans au travail pour pouvoir se rivaliser dans l'église, c'est dû au fait qu'on ne joue pas le rôle pour lequel Dieu nous a destinés. Si on joue ce rôle, on va aimer la sœur, on va aimer le frère parce que c'est un compagnon de guerre. Un compagnon de lutte, c'est par ses prières que je tiens. Quand il est là, je me sens bien, je me sens fort, parce qu'il y a un combat en face de nous. Mais quand il n'y a plus de combat en face, qu'est-ce qui se passe? On commence à se regarder et à lutter entre nous. On commence à se regarder, à chercher qui est le plus riche. On commence à se regarder, à chercher qui est le plus maquillé. On commence à se regarder, voilà, parce qu'on néglige la mission principale. Mais quand on est dans la mission principale, oh, on est bien. Parce que, comme j'ai dit au début, la vie éternelle est une réalité. C'est une sensation de satiété. Jésus a dit, celui qui mange du pain de vie, qui me mange, n'aura plus faim. Et cette sensation de satiété n'existe plus aujourd'hui dans les milieux chrétiens, parce que les chrétiens courent après beaucoup de choses qu'ils ont l'impression qu'ils manquent. Mais Jésus dit clairement, celui qui me reçoit est rassasié. C'est ce que Zachée a eu comme manifestation. Quand il a vu Jésus, il a cru, il était rassasié. C'est ce que nous devons viser. Ce rassasiement. Zachée, rassasié. Donc tout chrétien aujourd'hui doit comprendre que la vie éternelle est une vraie puissance. À partir d'aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je veux réaliser, expérimenter la même chose que Zachée. Et si tu es dans un groupe, ton groupe doit passer de l'entraînement à la pratique. De l'entraînement à aller faire de toutes les nations des disciples. Vous direz, mais Dieu ne nous a pas demandé d'aller en Chine. Non, autour de toi, il y a des gens envers qui tu peux travailler. En Guyane, il y a beaucoup de travail. Il y a des Indiens, il y a plusieurs peuples qui sont là, qui ne sont pas évangélisés. Nous Il y a du travail partout.
Voilà. Donc en fait, on doit revenir à ce que le maître, notre maître Jésus nous a commandé, c'est de sortir et d'aller rencontrer les gens là où ils se trouvent.
Amen. Je suis venu chercher et sauver. Donc le côté chercher doit revenir.
Voilà, c'est ça. Eh bien, que le Seigneur nous aide à entendre ce cri d'appel, parce qu'il nous ramène à ce qu'il nous a dit il y a des années et des années, et qu'il dit à tout homme et femme qui le connaissent déjà, c'est pas propre à un petit groupe de spécialistes de l'évangélisation.
Pas du tout.
Mais c'est un commandement, enfin, je sais pas.
C'est aussi simple.
C'est à tout le monde, quoi.
Oui, je vous donne l'exemple d'Ali. Ali va à la Mecque. Il va à la Mecque, et en pèlerinage, Jésus lui apparaît là-bas. Jésus lui a dit, c'est moi qui sauve, c'est pas l'endroit pour toi. Ali se convertit à Jésus, à la Mecque. Et il rentre chez lui en Turquie. Il fait venir ses voisins, parce que les voisins se disent, il vient de la Mecque. En général, quand quelqu'un vient de la Mecque, il y a une fête. Les voisins se réunissent. Ali est revenu de la Mecque. À un moment donné, l'Esprit lui dit, c'est maintenant. Maintenant, il dit, excusez-moi, je peux dire quelque chose. J'étais parti à la Mecque. Et j'ai rencontré Jésus là-bas. Il m'a sauvé. Maintenant, je suis devenu son disciple. Et il s'est arrêté là. Les gens ont rigolé, les gens. Mais lui, il a obéi. Hein? Il n'y a pas eu quelqu'un pour dire, je me convertis. Non, il n'y a pas eu. Mais lui, il a obéi à ce que l'Esprit lui a dit, maintenant tu peux parler. Il a dit, Jésus m'a sauvé. Est-ce que c'est difficile à dire? Maintenant, nous, on commence à vouloir prendre la place du Saint-Esprit. Mais comment l'autre va réagir? C'était un docteur en médecine, docteur, un ingénieur. Si je lui dis juste Jésus m'a sauvé, est-ce que c'est vraiment c'est fort? Non, c'est l'Esprit qui convainc. Voilà.
C'est ça, c'est se rappeler que Jésus nous a simplement obéir à l'ordre, voilà. Et Jésus va faire le reste. Il Amen. Va se glorifier lui-même.
Amen.
Alors nous allons prier pour cela, pour que tous ceux et celles qui ont entendu, et qui, ton voisin, ta voisine, ta maman, ton frère, ta soeur, donc peut-être dans une famille, tu es la seule, n'hésite pas à parler tout simplement, et Jésus, fidèle à sa parole, fera le reste.
Dire ce que tu ressens.
Voilà.
Ne cherche pas à créer des choses. Tu dis aux gens, Jésus m'a transformé. Comme Zachée a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il a dit ce qu'il ressentait. C'est que peut-être toi, tu ne ressens rien, c'est pourquoi tu cherches des choses. Alors si tu ne ressens rien, donc on va prier, tu commences d'abord par être plein de Jésus. Et ensuite, ça sortira tout seul. Seigneur, nous venons prier pour nous. Je prie pour moi, je prie pour tous les enfants de Dieu. Seigneur, que tu sois plein en eux, Seigneur. Vraiment aujourd'hui, Seigneur, que tu nous fasses réaliser que la vie éternelle est plus que tout. Seigneur Jésus, réalise-toi en nous. Seigneur, j'en profite pour prier pour les païens qui nous entourent ou qui nous écoutent. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux, qu'ils comprennent qu'ils sont perdus malgré leur richesse, ils sont perdus malgré leur maison. Michael Jackson, Prince, Johnny Hallyday, ils avaient tout cela, mais ils sont perdus aujourd'hui. Que la vraie vie, c'est celle qui dure éternellement au paradis. Ce n'est pas la parenthèse de 120 ans de richesse qui est la vie. Seigneur, je prie que tu fasses réaliser à tous les auditeurs que tu es le plus beau de fils de l'homme. Tu es la vie éternelle, le véritable salut, la véritable vie. Ce n'est ni l'argent, ni la religion, ni le succès, ni les réunions de prière entre chrétiens qui n'en finissent pas sur l'eschatologie, sur la fin des temps. Mais tu es la vie, et que cette vie doit être proposée à tout humain, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés, arrivent à la connaissance de la vérité. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, merci de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit, afin tout simplement d'ouvrir la bouche et de te laisser la remplir, qu'on ne cherche pas de mots compliqués, qu'on témoigne tout simplement de ce que nous vivons avec toi et de ta parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.
Amen. Merci à notre frère Moshe qui va quitter bien le département avec toute son équipe. Nous le remercions. Nous remercions le Seigneur, hein, parce que c'est Dieu qui envoie. Et nous remercions le Seigneur aussi pour la Guyane, parce qu'en Guyane encore, l'Évangile est prêché. Et nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait d'entendre la bonne nouvelle. Alors chacun d'entre nous, nous avons entendu le message. Jésus parle à son Église, il parle à ses enfants, à chacun d'entre vous. Mettons-nous à l'œuvre et c'est ainsi que la bonne nouvelle sera répandue dans tous les coins de la Guyane si chacun, nous simplement, nous revenons à la simplicité de l'Évangile et nous revenons à ce que Jésus nous a dit de faire et nous verrons la Guyane remplie de la gloire et de la grâce de Dieu.
Amen.
Soyons bénis, soyez bénis et que la Guyane soit bénie par l'Évangile et abreuvée par la parole de Dieu qui seul va sauver cette Guyane que nous aimons tant. Nous bénissons le Seigneur encore pour tout. Et merci, Frère Moshe.
Que Dieu
te raccompagne avec la famille de Dieu, voilà, qui est autour de toi. Merci aussi, Aline, d'être présente. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse, amis auditeurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.
Il t'appelle par ton nom.